autour de la question. D'où ça vient?
Qu'est-ce que ça va changer?
C'est pour qui?
À quoi ça sert?
Caroline Lachowski.
Bonjour, ravi de vous retrouver avec Guillaume Ploquin à la réalisation pour interroger le micro et le méga aujourd'hui et sur grand écran en plus. Pour l'ouverture du festival du film Paris Science, c'est un double voyage sur notre planète corps et jusqu'au plus profond des abysses océanes que nous vous convions à la découverte de toutes les créatures inouïes qui vivent à l'intérieur de nous et de toutes celles qui survivent dans les extrêmes profondeurs des volcans sous-marins. Le rapport entre les deux, la symbiose, la coopération plutôt que la compétition à l'honneur dans ce 10e festival du documentaire scientifique. Nous nous recevons la présidente Valérie Habitat en compagnie du réalisateur de Planète Corps, Pierre-François Gaudry, et du chercheur François Lallier, conseiller scientifique du film Abyss, l'alliance des profondeurs. Autour de la question comment filmer le micro et le méga, bienvenue. Bonjour Valérie Habitat.
Bonjour.
Bonjour François Lallier.
Bonjour.
Bonjour Pierre-François Gaudry.
Bonjour.
Merci d'être en direct avec nous pour partager vos images, vos recherches, vos interrogations et vos découvertes autour de la question comment filmer le micro et le méga. Alors vous, Pierre-François Gaudry, c'est plutôt le micro que vous filmez. Les amateurs se souviendront peut-être de votre série sur les extrémophiles et vivre en enfer. Cette fois-ci, dans ce superbe documentaire hors compétition, Planète Corps, vous vous immiscez à l'intérieur même de notre corps sur les traces des nombreuses créatures qui y ont élu domicile et qui vivent en symbiose, souvent à notre insu. Mais vous avez fait le choix, Pierre-François Gaudry, de filmer notre corps comme si c'était une planète, un méga écosystème.
Alors, référence aux séries que vous avez citées, les extrémophiles, juste une petite rectification. C'est pas moi qui les ai réalisées, c'est la société de production, donc Monalisa Production, pour laquelle je travaille, qui effectivement a produit ces films, mais c'est... Ça illustre la volonté et la culture de cette société d'explorer effectivement des univers microscopiques en se servant de techniques qui sont des techniques relativement inédites ou en tout cas assez nouvelles et parfois en détournant des outils scientifiques pour les amener vers une narration cinématographique ou télévisuelle.
Alors narration cinématographique, c'est le cas pour Planète Corps, où notre corps est un peu pris effectivement comme une planète, mais vous pénétrez à l'intérieur et vous agrandissez l'intérieur de notre corps pour qu'on puisse s'y balader.
Voilà, c'est un voyage en fait. L'approche initiale de ce film, c'était de considérer notre corps comme une planète et donc d'emmener les spectateurs dans un safari à la fois à la surface et à l'intérieur de cette planète pour y découvrir des équilibres écologiques relativement peu connus, en tout cas qu'on n'imagine pas forcément, avec une flore et une faune, et donc en jouant sur ces analogies entre la planète sur laquelle nous vivons, la Terre, et notre planète plus intime, notre corps.
Alors avant de découvrir cette incroyable biodiversité à l'intérieur même de nous-mêmes, on va aussi plonger dans les profondeurs des abysses océanes avec vous, François Lallier. Vous êtes chercheur en biologie marine, professeur à l'UPMC, directeur de la station biologique Ifremer de Roscoff. C'est vous qui êtes le conseiller scientifique à l'origine même de ce film assez sidéral et sidérant, Abyss, l'alliance des profondeurs. Alors là encore, il s'agit de filmer le micro, les bactéries et les autres organismes microscopiques qui vivent dans les très grandes profondeurs, dans les volcans sous-marins. C'est un défi scientifique, technologique et cinématographique.
Oui, c'est un défi technologique dans la mesure où effectivement, pour explorer ces grandes profondeurs, là, on a besoin donc de submersibles. Donc ce sont des prototypes de haute technologie en France on en possède deux, un qui est habité, le Nautil, et puis un autre qui est téléopéré, c'est celui-là qu'on a utilisé.
Donc un robot
qui est relié par un câble au bateau, mais c'est un robot qui fait quand même 2 mètres de côté, donc c'est une grosse machine. Alors c'est équipé de caméras, puisque de toute façon pour pouvoir le diriger et le piloter, il faut absolument qu'on ait un retour image sur le bateau. Mais je pense que c'est la première fois où on embarque sur une expédition scientifique, une équipe professionnelle du cinéma, et que j'ai considéré, donc le projet du film, c'était un projet parmi les projets scientifiques qui étaient réalisés.
Donc le réalisateur était comme vous chercheurs.
Le réalisateur est venu avec nous donc pendant les 3 semaines de campagne avec un assistant, et il avait droit à des les créneaux d'utilisation du ROV Victor, donc pendant 2-3 heures tous les X jours, exactement comme les scientifiques ont le droit pour faire leur récolte et leur
expérimentation. Pour faire un film scientifique dans ce festival, donc Paris Science, dont vous êtes Valérie Habitat, la présidente. Ce festival du film scientifique qui depuis 10 ans donne donc à voir le micro et le méga et le partage avec le public nombreux. On pourrait dire que réalisateurs et chercheurs ont en commun d'abord les instruments qui leur servent à scruter donc le vivant, l'infiniment petit et l'infiniment grand, mais pas seulement, ils ont quand même aussi quoi, des interrogations communes, des savoirs à partager.
Mais je pense que d'abord, ils sont des personnes passionnées, hein, qu'on soit réalisateur, auteur ou scientifique, on s'intéresse à quelque chose de spécifique et c'est de la passion, on fait tous ces métiers je pense par passion, et c'est vrai que je rappellerai que quand même les premiers cinéastes étaient des scientifiques, hein, j'en citerai que le plus connu, Marais, et donc forcément il y a une imbrication dès le départ entre les scientifiques et les cinéastes réalisateur, qu'il soit pour la télévision ou pour le cinéma.
Donc ça, c'est depuis le départ autour de la question comment filmer le micro et le méga. On va peut-être commencer par quelques pistes de réflexion sonore extraites de quelques-uns des films projetés cette année à Paris Science. C'est le mix de notre sélectionneur Guillaume Ploquin.
Sur notre planète, dans tous les milieux, invisibles à nos yeux, règnent des organismes immensément prolifiques.
Comment être certain que le film scientifique rend hommage à la science?
Dans un premier temps, c'est Périscope qui entre en scène.
1, 2, 3.
C'est pas facile, la science a toujours encore un petit côté rébarbatif.
Le système solaire, comment on va décrire ça?
Lagrange, c'est celui qui a vraiment donné pour la première fois la bonne manière de regarder l'évolution à long terme du mouvement des planètes.
Nous voulons explorer des planètes de plus en plus lointaines, mais il en existe une, très proche, que nous connaissons encore mal. Cette planète, c'est votre corps.
Ces bactéries présentes sur notre corps se nourrissent de nous. Elles consomment nos peaux mortes, les particules de notre épiderme. Elles participent en fait à la décomposition de ces éléments.
Ceci n'est pas un ventre, c'est un concentré d'intelligence.
Au cours du XXe siècle, on s'est rendu compte que les associations d'espèces symbiotiques étaient beaucoup plus répandues qu'on ne le pensait, et sont sans doute un des moteurs de l'évolution très important.
Les nouvelles techniques qui sont apparues dans les 10-20 dernières années nous ont permis de voir tous les organismes. On a réalisé qu'on était passé à côté d'au moins 95% des espèces existantes.
Même si les scientifiques ont fait des progrès remarquables dans les connaissances, il reste encore de grandes zones de mystère.
Paris Science, le festival international du film scientifique.
Paris Science qui fête ses 10 ans et qui démarre tout à l'heure autour de la question comment filmer le micro et le méga. On pourrait d'abord se demander, en lien avec ce mix de sons, comment est-ce qu'on peut filmer justement le mystère? J'ai envie de demander ça au réalisateur Pierre-François Gaudry. Comment est-ce qu'on filme le mystère de l'intérieur de notre corps, en l'occurrence?
Alors, il y a plusieurs types de techniques effectivement qu'on peut utiliser qui vont d'un grossissement à l'extrême avec des techniques de microscopie électronique dont effectivement Mona Lisa a commencé à utiliser les spécificités il y a maintenant une quinzaine d'années. Donc c'est ne plus se servir de la lumière mais des ondes d'électrons pour aller éclairer des zones qui dans lesquelles la lumière ne peut pas pénétrer. Donc
en l'occurrence, dans votre film Planète Corps, vous vous en êtes servi?
Alors oui, on s'en est servi pour visualiser un certain nombre d'organismes vivants à l'intérieur de notre corps, des vers parasites intestinaux, des bactéries, des...
Ça paraît dégoûtant comme ça, mais à voir, ça l'est pas du tout, c'est extrêmement beau, hein.
Oui, alors c'est beau ou c'est effrayant, enfin selon les avis. C'est vrai que y a des créatures étranges à ce niveau de grossissement, enfin on entre dans un univers qui est très étrange.
Mais ça permet quand même de percer aussi une sorte de mystère, enfin justement d'invisible.
Bien sûr, mais à l'origine, c'est ce que vous évoquiez tout à l'heure, c'est que c'est un outil scientifique à l'origine et qu'on nous on utilise à des fins de filmique, mais à l'origine c'est un outil scientifique.
François Lallier, c'est un outil scientifique évidemment pour vous aussi la caméra.
Quand vous descendez
dans les profondeurs.
Oui, c'est ce que je rappelais tout à l'heure. Donc, surtout quand on utilise donc le robot téléopéré, il y a personne.
Pour descendre, c'est quoi? C'est à plus de 1500 mètres de profondeur.
1500, 2000, mais le Victor peut aller jusqu'à 6000 mètres. Donc là, sur cette expédition-là, on est descendu à 2500 mètres.
Et ça permet de, justement de percer le mystère, enfin de voir l'invisible et ensuite de le donner à voir, justement. Ben,
ça permet déjà de voir le fond, puisqu'on descend avec des projecteurs et des caméras, donc on remonte des images, effectivement, parce que le fond des océans, on peut pas le voir autrement. Donc les satellites ne peuvent pas voir la surface des océans, mais pas le fond.
Et donc, ça a tout changé de pouvoir justement aller voir le fond des océans et ensuite nous donner à voir.
Absolument, c'est-à-dire que les idées qu'on en avait, c'était vraiment indirect, en allant chercher à l'aveugle des petits échantillons au fond des mers, avec des carottiers, des dragues, des choses comme ça. Donc ça depuis la fin du 19e siècle, on va dire, progressivement. Et donc après les années 50-60, l'emploi de submersibles qui allait au fond, on a pu voir ce que c'était. Et là, c'était tout à fait différent. Et on a découvert des milieux très particuliers. Au lieu des grandes plaines abyssales désertiques qu'on pensait qui régnaient partout, on a trouvé des îlots, des oasis de vie autour de sources chaudes ou de suintements de gaz, CH4, choses comme ça, du méthane.
Vous avez trouvé des sources de vie, et c'est celles-là que vous donnez à voir dans Abyss, hein, l'Alliance des Profondeurs, des sources de vie dans des cratères, des geysers brûlants.
Voilà, autour de sources chaudes, oui, donc où il y a de l'eau au fond des mers qui sort à 400 degrés. Et autour de ces sources, donc l'eau est tempérée, parce que les animaux ne vivent pas à cette température-là. Même les bactéries arrivent à 120 degrés maximum, les animaux à 80 degrés. Donc ils s'éloignent un petit peu, mais ça reste quelque chose de très toxique, parce que les fluides qui sortent autour de des geysers volcaniques, un petit peu comme les geysers sur Terre, hein, sont extrêmement toxiques, plein de métaux lourds. Donc c'est un milieu qui, a priori, est hostile à la vie, et pourtant on trouve une abondance d'animaux. Donc ça, c'est la partie visible, les animaux qu'on voit. Et puis après, quand on ramène des échantillons, on s'est rendu compte qu'à la base, il y avait plein de bactéries et de microfaunes qui vivent autour de ça.
D'où votre étude sur la symbiose des bactéries. On va y revenir autour de la question comment filmer le micro et le méga avant l'ouverture du Festival Paris Science. On écoute Lou Doyon sur RFI qui se pose les bonnes questions, questions and answers.
Answers. I seem to leap from doubt to doubt like a blind drifter. And the more I look around, the less I recognize this place, this face, these hands. Not familiar, but strange. And every step I seem to lose more than I gain. I guess I live when I'm back where I began, just like this recurrent dream that I used to have. The more I run towards you, the further I am. But if I close my eyes, then maybe I'll see you. And if I stop and I can't attend, then maybe I'll reach you. You'll get there in the end. Give me some certainties to easing up the pain. Give me some truth that stands so that I understand. Cause I've got nothing to hold. It's like running water through my fingers. Find me something to keep to help me sleep. But I wonder, maybe you wonder too. When in fact I'm just like the rest. And if that's the case, then maybe I've found the one thing. It's true, this common doubt that you make that makes us come looking for you. But if I close my eyes, then maybe I'll see you. And if I stop and I count to ten, then maybe I'll reach you. You'll get there in the end.
Lou Doyon sur RFI, Questions and Answers, des questions, il s'en posera de vertigineuses ce soir dans le grand amphithéâtre du Muséum National d'Histoire Naturelle à Paris pour l'ouverture du festival Paris Science avec la projection de Focus on Infinity de l'Autrichien Jörg Berger. Depuis le désert d'Atacama au Chili et le plus grand site de télescope au monde, ALMA, les chercheurs s'interrogent. Extrait.
The human being. Want to know where they are coming from.
Les êtres humains veulent savoir d'où ils viennent. Pour les gens qui vivaient sur cette terre d'Alma il y a 10 000 ans,
C'était pareil. Pourquoi sommes-nous là? D'où venons-nous?
ALMA
explore les frontières de la connaissance.
ALMA
peut fournir des réponses à de nombreuses questions scientifiques, essentiellement la question fondamentale des origines de l'univers. Progresser dans la connaissance, c'est la plus grande force de l'humanité. Nous avons évolué en nous posant chaque jour de nouvelles questions.
Every single day, ask ourselves something new.
Question existentielle développée dans ce film qui va faire l'ouverture, Focus on Infinity, Valérie Habitat. Ces questions éternelles, elles sont renouvelées aujourd'hui sur le grand comme sur le petit écran par les réalisateurs de films scientifiques.
Oui. D'ailleurs, ce n'est pas le seul film qui traite de ce sujet dans le festival. Et tous les ans, nous avons dans le festival des films qui traitent de ce problème. D'où nous venons? Qu'est-ce que l'univers? Il y a 2 ans, il y a eu le mystère de la matière noire. Et cette année, on s'interroge sur les origines de l'univers, mais d'une manière un peu différente, dans la mesure où cette année, pour la première fois, les écrans de Paris Science, qui sont avant tout des écrans télévisuels, s'ouvrent aux écrans de cinéma.
Donc c'est vraiment une film scientifique sur grand écran.
Ouais, on revient à ce qu'on disait au début de l'émission, c'est-à-dire que voilà, on retrouve les origines de la science et de l'image avec le cinéma. Et ce film a été fait pour le cinéma. Il a une durée de 82 minutes. Donc rien qu'en disant ça, on comprend que le réalisateur a fait, je pense, ce qu'il jugeait bon et la durée la meilleure pour son film, qui est un film assez atypique, extrêmement cinématographique, avec des...
Métaphysique, hein, on
peut dire. Oui, totalement métaphysique, hein, mais qui quand même nous interpelle, parce que tout le monde se pose la question, mais d'un point de vue scientifique et parfois théologique, de se poser la question.
Qu'est-ce qu'on fait là, hein?
Voilà.
Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce que les questions, vous avez l'impression, Valérie Habitat, qu'elles ont justement évolué en 10 ans de festival? Est-ce que on ose plus aller dans des sujets peut-être lourds, mais de manière extrêmement plus légère, enfin, et agréable? Comment ça a bougé, le film scientifique?
Je pense qu'il y a davantage d'appétence pour les films scientifiques aujourd'hui. Et d'ailleurs, l'association que je préside également, l'association Science Télévision, a travaillé à la reconnaissance de ce genre documentaire qui, effectivement, il y a 10 ans, était moins présent en France, mais moins présent aussi sur les écrans internationaux. Donc aujourd'hui, on a davantage de films de science.
Qui viennent de tous les pays.
Ouais, qui viennent. Cette année, nous avons reçu à peu près 300 films lors de l'appel à films télévision, qui venaient de 18 pays. Donc le Japon, l'Australie, l'Allemagne, des pays européens, les États-Unis, le Canada, enfin donc il y a des créateurs, des réalisateurs, des auteurs et des producteurs de films de science un peu partout dans le monde.
Donc il y a des téléspectateurs pour les voir, il y a des chaînes pour les diffuser
aussi.
Oui,
il y a des chaînes, il y a les chaînes historiques qui sont anglo-saxonnes, la BBC a une case qui s'appelle Horizon qui est depuis 40 ans le référent, ainsi que la chaîne PBS Nova. Et puis en France, on a les chaînes publiques, Arte qui a une case science le vendredi soir en deuxième partie de soirée, et France 2 qui fait des primes de science, ainsi que France 5.
Le public a envie, au fond, de quoi? De se poser des grandes questions, de voir effectivement, enfin on va en reparler en deuxième partie, mais de voir le micro et le méga à l'intérieur de notre corps, le fond des abysses, de suivre les découvertes en train de se faire.
Je pense que le public de Paris Science a envie d'apprendre parfois en riant, parce qu'il y a des films très drôles.
Oui, il faut le dire.
Parfois en s'émouvant, parce qu'on raconte des histoires... comme celle de Marie Curie qui est diffusée, je crois, dimanche dans le festival, qu'on ne connaît pas. Ils ont envie de participer aussi à des débats, puisqu'il y a quand même un lien très fort entre la science et les questions de société.
Et donc il y a des débats à chaque fois après film autour de la question. On va continuer le débat nous dans 3 minutes si vous le voulez bien, juste après le flash d'info autour de la question: comment filmer le micro et le méga? On poursuit notre voyage dans l'infiniment petit de notre planète corps et dans les profondeurs abyssales de l'océan. À suivre dans 3 minutes. À tout de suite.
Autour de la question.
Caroline Lachowski.
Bienvenue à vous qui nous rejoignez pour cette deuxième partie autour de la question « Comment filmer le micro et le méga ?» en compagnie de Valérie Habitat, présidente du festival Paris Science, qui fête cette année ses 10 ans avec une vingtaine de films tous plus vertigineux les uns que les autres. La preuve avec Abyss. 30, je me suis trompée, avec plus de 30 films alors. Ben nous, on a choisi deux, hein. Abyss, l'Alliance des Profondeurs, un film abyssal que nous présente le chercheur de l'Ifremer, François Lallier, conseiller scientifique de ce film, abyssal donc, et Pierre-François Gaudry, réalisateur lui de Planète Corps, un safari microscopique à l'intérieur même de notre propre corps, à la découverte de son incroyable biodiversité. Extrait tout de suite, histoire de se regarder autrement, le nombril.
C'est dans le cratère qui témoigne de notre naissance, le nombril, que des scientifiques sont partis à la recherche de bactéries cachées. Les biologistes de l'Université de Caroline du Nord, qui ont lancé le projet Biodiversité du nombril, reconnaissent que leurs recherches sur cette partie du corps ont commencé comme une blague.
Suivant. Sur ce coton-tige, vous prélevez des organismes vivants. Nous allons en extraire l'ADN et avec la génétique, on pourra les identifier.
Les chercheurs soumettent les bactéries à un séquençage ADN qui dresse leur carte d'identité biologique et permet de les répertorier. Pendant plusieurs mois, les scientifiques ont exploré le nombril de 95 volontaires pour y découvrir 1400 espèces de bactéries, dont 662 souches étaient inconnues.
Les outils récents de la génétique sont comme un nouveau télescope. Les nouvelles techniques qui sont apparues dans les 10-20 dernières années nous ont permis de voir tous les organismes, et plus seulement ceux qu'on pouvait mettre en culture. Et là, on a réalisé qu'on était passé à côté d'au moins 95% des espèces existantes. On est un peu dans la situation d'un géographe qui aurait étudié toute sa vie les fjords de Norvège, et tout d'un coup quelqu'un dirait: au fait, on a découvert les Amériques et l'Australie. Et personne n'en aurait entendu parler avant.
Mais le vrai défi consiste à dresser le portrait en images de cette flore minuscule qui habite les moindres recoins de notre corps.
Un vrai défi, en effet, Pierre-François Gaudry, de mettre en image cette flore minuscule qu'abrite les moindres recoins de notre corps. Enfin, nos cheveux, ils ressemblent quoi, à une forêt de bambou?
Oui, c'est un film dans lequel on a joué justement pour être assez parlant et grand public. Et puis en même temps, c'est des analogies visuelles qui sont très parlantes entre la planète Terre et la planète corps. Donc en jouant sur des transpositions d'échelle. Donc c'est vrai que des cheveux en microscopie électronique ressemblent à une forêt de bambou. Un tunnel de lave va ressembler à l'intérieur d'un intestin, etc. Et donc on a travaillé sur ces analogies visuelles pour à la fois le côté, je dirais, poétique et marquant, et puis aussi pour créer un univers et une rencontre entre deux univers qui sont d'un côté la Terre et de l'autre côté notre corps.
Mais une rencontre qui marche vraiment. Alors en plus, le fil rouge de ce film, c'est un écologue, c'est Franck Courchamp, qui lui d'habitude travaille sur la Terre justement, et qui se balade comme ça, c'est un film, dans notre corps, dans cette forêt de bambou que sont nos cheveux, ou dans nos intestins qui sont des volcans et des cratères en ébullition. Mais ça marche en fait très bien au niveau scientifique aussi.
Oui, tout à fait. C'est effectivement Franck Courchamp qui est écologue, directeur de recherche au CNRS, a été au départ très intéressé par cette démarche, qui est une démarche que de plus en plus de scientifiques ont, c'est-à-dire de considérer le corps comme le résultat d'équilibres qui sont construits au cours de millions d'années d'évolution. Et avec des implications en termes de santé aussi, c'est-à-dire que à partir du moment où on parle d'équilibre, c'est des imbrications de coopération ou de compétition à des niveaux microscopiques assez vertigineux. Et quand il y a un maillon est effectivement remis en question, c'est l'équilibre global de l'écosystème qui peut être mis en question.
Oui, de l'écosystème corps. Alors, je suis certain, on va y revenir, que ça va faire réagir François Lallier, mais il y a eu pas mal de découvertes dans ce film, Planète Corps. D'abord, on découvre, si on ne le savait pas, qu'on est habité par plein de bactéries et d'autres êtres vivants qui nous construisent, qui font ce que nous sommes. Et puis, on en arrive même jusqu'au virus. Alors, les méchants virus, on découvre qui nous servent à quel
quelque chose et pas à rien.
Voilà, sur les virus, il y a effectivement deux séquences qui sont assez intéressantes. D'une part, ce qu'on appelle les virus bactériophages, qui sont en fait des virus qui sont des mangeurs de bactéries. Et certaines recherches actuelles semblent montrer que certaines parties de notre corps, donc le nez, la bouche, les intestins, où il y a cette substance un petit peu visqueuse qu'on appelle le mucus, concentrent des quantités de bactériophages assez importantes. Et c'est sans doute pas un hasard, c'est un échange de services, entre guillemets. C'est-à-dire que notre corps fournit à ces virus un environnement favorable à leur développement, et en retour, ils nous défendent. C'est-à-dire que quand des bactéries s'introduisent dans notre corps, ils les détruisent. Donc ça pourrait être une première barrière de protection, ces virus bactériophages. Donc ça pourrait faire partie en fait de nos systèmes immunitaires au sens large.
Donc les virus voilà. pourraient nous aider dans nos systèmes immunitaires,
voilà,
à ce qu'on croyait. Ouais. Et en même temps, les virus, ce sont eux qui nous ont fait mammifères.
Voilà, donc ça c'est un autre aspect sur la partie des virus, c'est la fossilisation en quelque sorte des virus dans notre ADN. Donc c'est sur des millions d'années d'évolution, mais on aurait 10% de notre ADN qui serait ce qu'on appelle l'ADN poubelle ou l'ADN fantôme. Donc 10% de notre ADN qui serait en fait des protéines virales.
Et qui permettrait alors, quoi la formation du placenta.
Voilà, qu'on pensait fossiliser, donc incapable de se réactiver, mais qui dans certaines situations peuvent se réactiver, et notamment au moment d'une grossesse. Et c'est la réactivation de ces virus fossiles dans notre ADN permettent la formation du placenta et permettent au fœtus de ne pas être rejeté, enfin de ne pas être attaqué par le système immunitaire maternel.
Donc si nous sommes des mammifères, si nous avons des enfants et que nous ne pondons pas des œufs, c'est grâce aux virus. Merci voilà. les virus. Voilà, entre autres, hein, ce qu'on peut apprendre et découvrir dans ce film Planète Corps, et ce qu'on découvre, ça doit vous parler, François Lallier, c'est une véritable symbiose entre bactéries, virus, ou ce qui habite notre corps, enfin tous les différents êtres vivants qui vivent à l'intérieur de notre écosystème corps.
Oui, les écosystèmes qu'on étudie, nous, donc au fond des mers, sont un peu particuliers, puisqu'effectivement, à la base, ce sont des bactéries qui produisent la matière vivante par chimiosynthèse. Alors, c'est l'analogue de la photosynthèse que font les plantes sur Terre, qui, grâce à l'énergie...
Parce que ce sont des bactéries qui vivent à plus de 1500 mètres de profondeur, et donc sans lumière.
Mais surtout, donc, autour de ces sources où il y a donc des produits chimiques, comme les sulfures, le méthane, choses comme ça, que les bactéries savent utiliser pour produire de la matière vivante. De la même façon que les plantes utilisent la lumière pour fabriquer tous les végétaux qu'on connaît sur Terre. Et c'est à partir de ce maillon-là que des animaux ont pu croître de façon extraordinaire autour de ces sources, parce qu'il y avait cette production bactérienne au départ. Et puis ça a été un petit peu plus loin pour certains animaux, les plus abondants se sont en fait associés en symbiose avec ces bactéries, et donc avec une efficacité qui est assez redoutable, puisqu'il y a des populations extrêmement abondantes de moules, de crevettes, de vers.
Dans les extrêmement grandes profondeurs, voilà. Dans les abysses. Et donc, la vie, c'est quoi? C'est une histoire de symbiose, enfin, de coopération, de compétition, de... Comment est-ce qu'on pourrait... C'est compliqué à
c'est
dire ça.
C'est vrai que pendant très longtemps, c'est l'idée de compétition qui a dominé. Hein. Donc, only the strong survive, seuls les plus forts arrivent à survivre, etc. Et on se rend compte de plus en plus qu'il y a énormément de coopération qui ont aidé à l'évolution de la vie depuis très longtemps, donc à l'origine de la vie dès le départ, quoi. Et puis encore aujourd'hui, il y a donc tous les exemples, et puis c'est là qu'effectivement on se rapproche du film Planète Corps, puisque là il y a des associations, donc toutes les bactéries sont loin d'être nocives, beaucoup de bactéries sont bénéfiques, et on ne pourrait pas vivre sans, et c'est exactement la même chose donc avec nos animaux, et c'est un modèle peut-être un peu plus simple, parce que justement il y a une association très poussée avec un ou deux types de bactéries.
Donc comprendre, on va y revenir, voilà, mais comprendre comment ça fonctionne, ça pourrait permettre de comprendre à une échelle plus complexe
on
comment ça
fonctionne.
On peut faire
des parallèles avec des choses plus complexes comme le corps humain.
Du micro cosme au macrocosme, autour de la question comment filmer le micro et le méga en tract musical, si vous voulez bien, avec Semi-Conducteur, le groupe qui sera en concert à l'Institut de Physique du Globe samedi 4 octobre pour la nuit blanche du Festival Paris Science. On écoute en avant-première Green Grass of Tunnel.
Dreams green.
semi-conducteur sur RFI en concert samedi 4 octobre à l'Institut de physique du Globe à Paris dans le cadre de la Nuit Blanche du Festival du film Paris Science qui démarre ce soir. Nous sommes en compagnie de sa présidente Valérie Habitat, du réalisateur de Planète Corps Pierre-François Gaudry et du biologiste marin François Lallier de l'UPMC, conseiller scientifique du film Abyss, l'Alliance des profondeurs, extrait abyssal évidemment, autour de la question comment filmer le micro et le méga.
Les capacités de survie des bactéries sont remarquables. Pendant des milliards d'années, elles ont été les seuls êtres vivants à coloniser les geysers profonds. Mais au fil de millions d'années d'évolution, une première catégorie d'animaux provenant de la surface s'est adaptée aux conditions locales et a même réussi à s'installer durablement. Qui sont ces animaux pionniers et comment survivent-ils dans ces milieux extrêmes ? Pour répondre à ces questions, la campagne océanographique Biobase nous emmène à la recherche de secrets enfouis depuis la nuit des temps, sous des kilomètres d'eau. Le robot Victor s'enfonce à plus de 2 km sous la surface. Il s'aventure dans un monde dépourvu de lumière vers l'un des sites volcaniques sous-marins les plus spectaculaires de la planète, Rainbow.
François Lallier, vous nous décrivez ce site, ces profondeurs abyssales, ce volcan sous-marin, Rainbow, que vous avez exploré hein, scientifiquement et cinématographiquement.
Oui, mais c'est toujours fascinant. Alors bon, quand on plonge en sous-marin, c'est encore mieux, puisqu'on est vraiment sur place, mais bon, là, c'est avec le robot, et donc il y a plus de monde qui partage les images. Alors, ce qui est souvent, on arrive donc sur une plaine abyssale, où ça a l'air désertique, on voit donc du sable ridé, un petit peu comme sur une plage, et on voit pas beaucoup d'animaux. De temps en temps, il y a un poisson qui passe, quelques crevettes, etc. Et puis on s'approche des sources, et là on voit donc on commence à voir de la fumée, on voit des sulfures jaunes sur le fond, donc c'est des signes avant-coureurs. On s'approche et on découvre donc des immenses cheminées. Alors immenses, elles font
cheminées sous l'eau. Hein.
Oui, oui, ce sont comme des stalagmites en quelque sorte, construits par la précipitation de ce qui est contenu dans le fluide qui sort de ces geysers sous-marins. Et donc ça se construit comme des stalagmites, et donc ça monte jusqu'à 10, 15, 20 mètres. Et donc à ce titre, Rainbow, ça fait vraiment comme des cathédrales ocre. Et entre les tours de ces cathédrales, il y a des populations de crevettes absolument incroyables, donc très denses, qui forment comme des essaims qui tournoient sans arrêt, donc elles nagent sans arrêt, en restant à proximité de ces sources chaudes.
Parce qu'elles peuvent pas vivre ailleurs. Enfin, c'est des conditions extrêmes, mais elles vivent dans ces conditions extrêmes-là.
Cette espèce-là ne peut vivre que là, effectivement, et se nourrit grâce aux bactéries qu'elle héberge dans ses joues, en quelque sorte. Hein. Et ces bactéries-là ont besoin du fluide chaud qui sort pour pouvoir fabriquer des sucres qui sont transmis à la crevette qui se nourrit de ça.
Ça, c'est vraiment une symbiose incroyable. Enfin, les unes ont besoin des autres, absolument. Enfin, les bactéries étaient premières, mais les crevettes ont pu arriver grâce à... Comment on peut dire
là,
ça de la foule de la poule.
Il y a beaucoup de débats qui peuvent dériver de la philosophie, là, parce qu'effectivement, les bactéries, en tout cas celles de la crevette, là, existent sous forme libre, quelque part. Donc, c'est les crevettes, les domestiques, en quelque sorte, on pourrait dire ça.
Elles s'en servent
et
pour elles-mêmes.
Elles vont s'en servir. Mmh. En même temps, il y a un échange, puisque les crevettes, par leur mouvement autour des sources, vont permettre à ces bactéries d'avoir à profusion tous les éléments qui leur sont nécessaires pour faire leur métabolisme chimiosynthétique de bactéries des profondeurs.
Donc vous, ce que vous étudiez, ce que vous cherchez, et ce pourquoi vous avez d'ailleurs convié un réalisateur à venir filmer ça, c'est comment marche cette symbiose, parce qu'au fond, on se demande si la vie n'a pas démarré comme ça.
Oui, il y a sûrement eu donc il y a dans ce qu'on appelle les cellules à noyau, les cellules eucaryotes, là ont probablement donc eu à l'origine des événements de symbiose avec des bactéries, celles qui nous servent de mitochondries à l'heure actuelle.
Donc parce qu'on est toujours habité par des bactéries.
À l'intérieur des cellules, il y a ces petites choses qui sont avant étaient des bactéries et qui maintenant nous servent à respirer l'oxygène, par exemple.
C'est grâce aux bactéries que nous respirons.
Voilà. Mais ça, c'est un événement qui s'est passé il y a quelques milliards d'années. Hein, Et ensuite, les plantes, c'est la même chose pour faire la photosynthèse. C'est une autre bactérie, une cyanobactérie, une algue bleue, qui a permis aux plantes de faire de la photosynthèse. Donc là, il y a eu des associations symbiotiques très anciennes qui sont maintenant de l'histoire évolutive de la vie. Et là, donc, c'est des choses qui se passent aujourd'hui.
Que vous pouvez étudier aujourd'hui dans ces fonds abyssaux.
Je dirais à différents stades de cette évolution. Donc on n'est pas à un stade aussi abouti que ce dont je viens de parler. Donc on voit les choses qui sont en train de se faire. Donc les crevettes qui domestiquent un petit peu, qui jardinent leurs bactéries dans leurs joues, ou une autre espèce, les moules, qui sont aussi sur ces sites-là, et qui, elles, ont intégré les bactéries à l'intérieur de leurs cellules, déjà. Donc c'est un petit peu plus loin. Mais c'est pas encore aussi abouti que les mitochondries ou les plastes dont j'ai parlé.
On a l'habitude de dire, quand on regarde dans l'espace, plus on regarde loin, plus on regarde loin dans le temps, on a l'impression qu'au fond, plus on regarde profond sous l'océan, plus au fond on peut remonter le temps de l'évolution de la vie.
Je pense pas qu'il y a qu'au fond de l'océan, mais effectivement, en regardant de très près, donc c'est des milieux extrêmes, c'est des milieux très particuliers, et donc les adaptations sont un petit peu exacerbées, on va dire, dans ces milieux-là. C'est ça qui est intéressant pour les étudier scientifiquement. Il y a d'autres exemples de symbiose sur Terre avec des insectes, insectes-bactéries, ou des plantes avec des bactéries aussi, qui sont étudiées par ailleurs. Et donc le fait d'étudier plusieurs exemples comme ça, ça peut permettre de voir les différences, certes, mais aussi de voir les ressemblances et de voir des mécanismes communs dans la communication entre un animal et, ou une plante et une bactérie.
Parce qu'en fait, nous vivons aujourd'hui en symbiose avec beaucoup de bactéries à l'intérieur de notre ventre, nous en abritons beaucoup. Et j'ai envie de dire que vos deux films n'ont pas se rejoignent, mais qu'en voyant les deux films, Planète Corps et Abyss, Alliance des Profondeurs, je trouvais qu'il y avait beaucoup de choses en commun dans cette symbiose que nous vivons tous, sans nous en rendre compte, sans le voir à notre insu, dans un monde invisible. On est plusieurs, nous, en même temps. Pierre-François Gaudry.
Je pense que effectivement, c'est ce qui peut faire rejoindre à un certain nombre de niveaux les deux films, c'est les interactions qui se passent dans le monde vivant à différentes échelles, avec ce mélange de compétition et de coopération, avec des organismes ou des créatures qui essaient de trouver les conditions qui leur sont le plus favorables, mais en faisant cela, finalement, participent d'un équilibre plus global. Et c'est ça qui est fascinant, c'est qu'on a les mêmes phénomènes à l'intérieur ou à la surface de notre corps.
Ouais. Que à l'extérieur. Écoutez, j'ai envie de vous proposer un petit jeu qu'on a osé faire. Alors, c'est pas très cinématographique, mais autour de la question comment filmer le micro et le méga, on a eu envie un petit peu de mixer vos deux films. Alors, c'est un petit peu osé, entre Abyss, Alliance des Profondeurs et Planète Corps, des bactéries à l'homme et au-delà, joli mélange du vivant, puisque nous sommes tous des chimères, on essaye.
Notre environnement humain nous paraît à l'évidence plus propice à la vie que les abysses. Mais pour les bactéries, notre corps est-il réellement plus facile à vivre qu'un geyser abyssal ?
Après un tel safari microscopique sur la planète Corps, peut-être ne vous regarderez-vous plus tout à fait de la même façon. Si nous hébergeons plus de bactéries que nous n'avons de cellules, si des virus fossiles squattent notre ADN, que nous reste-t-il d'humain ?
D'une certaine manière, on peut considérer que l'intestin et peut-être aussi la peau sont des environnements extrêmes. Les bactéries doivent faire face à notre système immunitaire qui leur jette des grenades en permanence. Elles doivent subir des changements d'acidité lorsqu'elles voyagent de l'estomac vers l'intestin et s'adapter à nos changements alimentaires.
Le vivant n'est pas uniquement constitué d'espèces en compétition les unes avec les autres, mais aussi et surtout d'espèces auxquelles l'évolution a imposé la nécessité de collaborer entre elles. Et c'est ce qu'elles font à merveille depuis toujours. Virus nous sommes, bactéries nous sommes, cellules nous sommes, animaux nous sommes. Et c'est bien ça qui nous rend humains. N'oublions pas que nous sommes nous-mêmes les passagers d'un corps géant, la Terre, et que nous influons sur son destin.
Ça rend philosophe de faire des films scientifiques, Pierre-François Gaudry ?
Ben, oui, ça, en tout cas, ça interroge sur de nombreuses questions et ça enrichit en permanence, absolument. Oui.
François Lallier, vous avez reconnu hein, certainement les passages qui étaient de votre film, mais en même temps, on se dit qu'entre cette alliance des profondeurs et ces alliances sur notre planète corps, il y a quand même beaucoup, beaucoup de similitudes.
Oui, tout à fait. Donc, quand on a discuté du film avec Jean-Yves Collet,
le réalisateur
du film, oui. Donc, on a construit le projet un petit peu ensemble au départ, là. Et tout de suite, donc, ce parallèle était évident pour nous puisque on défend nos recherches sur ces animaux extrêmes justement parce qu'elles peuvent avoir des implications, y compris sur la santé humaine. qui est beaucoup plus complexe, puisqu'on le voit, je pense, dans le film de Pierre-François Gaudry, la multiplicité, la diversité des organismes bactériens et autres qui sont sur notre corps humain rend les choses extrêmement complexes à étudier.
On parle de symbiose, Valérie Habitat. Il y a des correspondances, justement, des symbioses et des interactions comme ça entre les films de ce festival Paris Science.
Non, il y a des sujets similaires. On a deux films qui traitent, voire trois qui traitent du nucléaire.
Bon, les grandes questions qui se posent aujourd'hui.
Via Fukushima, via le traitement des déchets et via l'histoire du nucléaire. Trois films différents. Deux pour la télévision, un pour le cinéma, donc étrangers français. Là, on peut dire qu'il y a un lien. Mais ce qui caractérise le festival, pardon, c'est plutôt la diversité. Et nous, on invite toutes les sciences à ce festival, qu'elles soient des sciences dites dures, qu'elles soient des sciences sociales, des sciences humaines. Il n'y a pas de thématique scientifique à chaque année de festival.
Qu'est-ce qui vous fait sélectionner un film?
C'est à la fois dans la compétition science télévision, c'est à la fois de montrer un panorama de ce qui se fait sur toutes les télévisions du monde, et en particulier en France évidemment, et puis en Europe, là on a des films danois, finlandais, on a un film japonais, allemand, suisse, enfin donc voilà. Donc ça c'est intéressant de voir quelles sont les problématiques. Et puis sur le cinéma, bien c'est la beauté des films et peut-être
beauté,
ouais,
la beauté.
Oui, et leur côté peut-être un peu elle est philosophique, on va dire.
Philosophique, oui, ouais. Justement. Faut faire rêver, faut se poser des grandes questions. Vous travaillez sur
les
quoi,
deux,
là,
oui.
François Lallier, oui. Et
les
vous
deux,
travaillez sur quoi?
Moi, je travaille précisément donc sur les moules et les crevettes qui vivent
extrémophiles
en symbiose avec ces bactéries, et en essayant du côté de l'animal de voir comment justement l'animal peut maintenir l'équilibre, parce que la symbiose c'est quelque chose de fragile. C'est-à-dire que si la population bactérienne se met à croître de façon non contrôlée, on tombe vers le pathogène, vers la maladie.
Donc tout est une question d'équilibre dans cette symbiose.
Une question d'équilibre et de communication entre les deux partenaires.
Et vous, Pierre-François Gaudry, vous travaillez sur quoi là maintenant? Quelle symbiose?
Alors, sur plusieurs projets, mais en particulier à la suite de Planète Corps, il y a un sujet sur lequel je commence à travailler qui s'appelle, en tout cas titre de travail, Histoire secrète de nos organes, et qui est
encore plus loin, encore plus profond,
l'homme est en quelque sorte un espèce de puzzle de l'évolution, quoi. Voilà.
Une chimère.
Exactement. On a hérité de choses qui existaient déjà avant et qu'on a combiné du mieux qu'on pouvait.
Et vous allez vous servir de toutes les techniques micro et macro pour
J'y réfléchis, ouais, on va sur la mise en image, c'est encore un peu tôt, mais
vous viendrez nous en reparler. Merci en tout cas infiniment à tous les trois d'être venus en direct partager vos images, vos interrogations, vos recherches et vos découvertes. Je rappelle le titre donc de vos films, Planète Corps, qui sera diffusé l'année prochaine, je crois, en février sur la chaîne Arte et disponible en DVD à ce moment-là. Abyss, Les Alliances des Profondeurs de Jean-Yves Collet, qui a été diffusé sur France 5 et qui est en compétition au festival Paris Science, un festival à suivre à Paris dans de nombreux lieux, notamment au Muséum National d'Histoire Naturelle jusqu'au 7 octobre, avec une petite piqûre de rappel le samedi 11 octobre pour la fête de la science à l'Institut de Physique du Globe. Le lien sur Paris Science est bien sûr sur notre page. Merci.
Autour de la question sur internet, www.rfi.fr.
Demain, comme tous les vendredis, c'est Jean-Yves Casga que vous retrouverez à ce micro. Quant à nous, Guillaume Ploquin, Caroline Fillette et Caroline Lachowski, nous vous donnons rendez-vous lundi pour chasser ensemble les météorites qui tombent du ciel, à lundi pour se mettre en orbite et en symbiose. D'ici là, surtout, restez curieux, continuez de vous et de nous interroger. Dans quelques instants, dans une poignée de secondes, vous retrouvez le journal sur RFI.